Nous allons écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire.
C'est une attitude qui n'est pas qualifiable, c'est une attitude qui est antidémocratique, c'est une attitude qui...
Avec une douceur.
Le mot salope est grossier. Faut pas aller dans la grossièreté.
C'est la bêtise épaisse, éructante.
Honnêtement, tocard est plutôt sympa.
Mais attendez, évidemment...
Vive la République et vive la France.
Sur un air de campagne...
Sur un air de campagne...
Florent Guignard.
Bonjour et bienvenue dans l'émission politique de RFI, socialiste, libéral ou social-libéral, jeu de mots PS, la bataille du Congrès se précise, le duel royal de l'Anoé se dessine et François Hollande prépare son vrai faux départ. Bonjour Vincent Peillon.
Bonjour.
Député européen, conseiller de Ségolène Royal, ça y est, le match est lancé avec Bertrand Delanoë.
Je ne sais pas. Vous savez, le congrès est dans 6 mois et le spectacle a donné depuis d'ailleurs toute l'année finalement, hein, de la concurrence des ambitions, de lignes dont on discutera pour savoir si elles sont artificielles ou simplement de positionnement. Ce ne semble pas une très bonne chose. Donc il y a une envie incontestablement de leadership par rapport au parti, par rapport à son indolence les dernières années. Est-ce que c'est cette discussion-là entre Ségolène Royal et Bertrand Delanoë qui va structurer les débats de la gauche dans les mois qui viennent? Je suis encore interrogatif.
On le verra et on va en reparler de tout ça en compagnie de Patrice Bianconi du service politique de RFI. On parlera aussi de Pierre Bérégovoy, dernier Premier ministre socialiste de François Mitterrand, dont le suicide il y a 15 ans tout juste symbolise à tort ou à raison les errements du second septennat. Jacques Folleroux est journaliste au Monde. Il vient d'écrire Pierre Bérégovoy, le dernier secret, un secret qu'il nous livrera dans la seconde partie de l'ère de campagne. Mais d'abord, les grandes manœuvres au Parti Socialiste, elles ont donc commencé. Grand raout le week-end dernier de Bertrand Delanoë avec tous ses amis. Le maire de Paris a déjà signé une contribution en vue du prochain congrès. Il vient d'écrire un livre et non, il ne se fout pas de nous.
À partir du moment où nous lançons une dynamique politique, tous ensemble, mes chers amis, si en plus j'y ajoute un livre et que je vous dis, ah ben non, de toute façon... Je ne veux vraiment de responsabilité qu'à la mairie de Paris. Je me fous de vous. Eh bien, je vous le dis simplement, comme vous, j'ai bien l'intention d'en prendre ma part, mais quelle part? Vous en déciderez avec toujours un seul guide, la démocratie. Le socialisme.
Le socialisme et le libéralisme, Bertrand Delanoë suscite l'émoi au PS en se disant libéral. La réponse de Ségolène Royal n'a pas tardé.
Je ne pourrais jamais dire, comme a dit Bertrand Delanoë, je suis libéral. Le mot libéralisme est le mot de nos adversaires politiques. Il est tellement chargé et tellement synonyme aujourd'hui de capitalisme débridé, de dégâts, d'écrasement des bas salaires, d'insécurité, de creusement des inégalités donc de violence.
Et voilà les Delanoïstes qui surnomment désormais Ségolène Royal Tchégolène, comme le Che Guevara. Alors pour mettre de l'ordre dans la pétaudière socialiste, François Hollande, le premier secrétaire, intervient et présente sous son seul nom un texte en 10 points, 10 questions pour un congrès réussi. C'est l'ordre juste version François Hollande.
Pour que ça parte bien, il faut qu'on remette les choses dans le bon ordre. Le bon ordre, c'est on débat des questions, des grandes questions, ensuite qu'on y réponde chacun comme on l'entend. Il faut qu'il y ait cette contradiction. Elle est nécessaire. On n'est pas tous d'accord. Et puis de ce vote va sortir une orientation, une ligne politique, et puis aussi une majorité au sein du Parti Socialiste la plus forte possible pour la porter, et un premier secrétaire qui doit être un vrai premier secrétaire avec l'autorité nécessaire.
Quel premier vrai secrétaire? On va en parler, mais Vincent Peillon, d'abord, libéral, c'est un gros mot chez les socialistes?
Vous savez, la naissance du mouvement socialiste en 1830, après les 3 journées de 1830, c'est un grand papier qu'a revendiqué Sainte-Beuve pendant des années et qui avait été écrit par Pierre Leroux, qui est de dire plus de libéralisme impuissant. Alors le libéralisme, c'est la doctrine de l'émancipation de la personne, des droits de l'individu, c'est la Révolution française. Au bout de 30 ans, les gens qui avaient mené ce combat se sont dit, tiens, c'est curieux, à revendiquer uniquement les libertés, on se rend compte qu'il y a les libertés pour quelques-uns et pas pour tous. Donc il faut compléter la doctrine. Comment on la complète? Avec cette notion d'égalité, qui est d'ailleurs dans la devise républicaine, en disant il faut créer les conditions pour que chacun puisse être libre, en conditions d'éducation, conditions économiques, etc. Ça s'est appelé le socialisme. Alors il y a un premier combat, moi, que j'ai mené, et qui m'est assez sympathique quand je l'entends repris par d'autres, c'est de dire attention, laissez pas aux libéraux les libertés. C'est une grande erreur. Et dans l'histoire, c'est précisément pour réaliser ces libertés qu'on a construit le socialisme, intervention de la puissance publique, tout mis sur l'éducation, etc., etc. Sinon, les libertés, c'est ce que mon maître Merleau-Ponty appelait une mystification libérale, les libertés pour quelques-uns et pas pour les autres. À partir de là, malgré tout, ça a un nom, cette doctrine, qui inclut la visée des libertés, mais qui dit, et pour que les gens soient libres, ben, faut mettre en œuvre un certain nombre de choses. Et ça s'appelle le socialisme. Donc, il n'y a pas de raison de s'appeler aujourd'hui libéraux. C'était réglé en 1830.
Mais en même temps, sur le fond, il n'y a pas de divergence entre Ségolène Royal et Bertrand Delanoë. Ségolène Royal est montée au créneau juste sur une question de forme.
Non, je crois pas. Je crois que c'est d'ailleurs très amusant de voir que tout le monde veut des débats intellectuels, que nous animons en gros depuis une vingtaine d'années. Beaucoup de chercheurs, moi-même, j'ai créé une collection, je sors un livre sur cette question spécifique que personne ne lit, au grand désarroi, sauf que quelques vedettes médiatiques comme Madame Cantos-Sperber, qui ne connaît pas les textes. Mais tous les jeunes savants, vous avez quatre professeurs de Sorbonne aujourd'hui qui travaillent sur cette question. Le jour où cette question arrive dans le débat politique, elle est fondamentale. On nous dit c'est un faux débat. Alors moi, je vous réponds, c'est un vrai débat parce que c'est la question de la liberté. Ça nous conduit à quoi? Eh bien, je vous dis à une chose, la demande d'égalité. Tant qu'on ne répondra pas dans cette société à la demande d'égalité, qui est le problème majeur pour nous depuis 30 ans, on va d'ailleurs en parler avec Bérégovois, eh bien, on sera dans la mystification de liberté qui valent pour quelques-uns. Il y a la moitié des gosses qui partent pas en vacances, vous voyez l'échec du système éducatif, vous voyez. Donc cette question, elle est fondamentale. Pour assurer les libertés, est-ce qu'on a besoin de plus ou moins d'égalité? Or, ce débat est lancé. Est-ce qu'on se dit socialiste, parce qu'on reste dans cette tradition, y compris de la Révolution française, de Jaurès, du combat pour Dreyfus, etc. Émancipation de la personne, mais on en crée les conditions. Donc je pense que pour une fois, on avait un débat idéologique intéressant, qu'il va falloir trancher, mais les mêmes qui nous disent toujours il n'y a pas de débat idéologique, depuis une semaine, expliquent que c'est une querelle de mots, en fait, ils pensent la même chose, etc. C'est triste pour ceux qui ont ce commentaire, je le dis comme je le pense.
Question de Patrice Bianconne.
Vincent Payon, il semble que l'évolution soit tout de même incontournable. Il n'y a pas si longtemps, les socialistes avaient peur du mot social-démocrate. Surtout pas, on n'était pas des sociodémocrates. Ensuite, avec la déclaration de principe qui a été votée il y a peu, adoptée il y a peu.
Jeudi soir.
Là, jeudi soir, on voit que la social-démocratie est acquise, quasiment. C'est la revendication aujourd'hui du PS. Et puis, maintenant, apparaît un autre mot qui est le mot libéral. Alors, est-ce que aujourd'hui, dans le XXe siècle, est-ce que c'est la seule formule adaptable et que tout le monde y va sans finalement beaucoup lutter ou en laissant glisser?
En fait,
il y a un glissement quand même, vous le reconnaissez.
Mais il y a une formidable ignorance parce que la question n'est pas celle de la social-démocratie, ça n'a pas été adapté chez nous et on voit les échecs européens. Adapté pourquoi? Le parti de masse et la contractualisation avec les syndicats. Je vous rappelle la charte d'Amiens, donc on n'a pas construit une social-démocratie en France. Mais on avait autre chose. Ça s'appelle le socialisme démocratique et républicain. Toutes les lois sociales dont, sous lesquelles nous sommes encore, les progrès de la démocratie 1830, 1848 et puis après les grandes lois sociales des républicains à partir de 1880, c'est cette tradition. À un moment, il se passe quoi? Il se passe que les gens qui portaient cette tradition vont succomber au marxisme. C'est l'époque de Goethe, c'est 1905, l'unité par Jaurès. On l'a payé tout un siècle, et d'ailleurs, Grimbert et Bergougnou ont fait un très beau livre pour montrer le grand écart dont on parlera à propos de Béret entre des discours marxistes à la tribune et des pratiques opportunistes au pouvoir. Bon. En réalité, ça vient de cette blessure de 1905. Et ce que nous avons à faire, et tout le travail que nous faisons, y compris en récupérant les libertés, mais aussi la demande d'égalité, c'est pas de la social-démocratie, c'est pas du libéralisme, c'est du socialisme français, comme disait Jaurès, démocratique et républicain. Et donc, la revivification du socialisme français, elle viendra lorsqu'on sera capable de retrouver ce que Jaurès lui-même appelait l'histoire rompue en 1905, nos vraies racines. Et nos vraies racines, c'est le raisonnement que je tenais tout à l'heure, nous sommes pour les libertés, nous voulons sauver Dreyfus, nous voulons la liberté de chacun, et cette liberté, elle suppose de la redistribution sociale, elle suppose la dissolution des héritages, elle suppose une puissance publique forte, elle suppose la priorité à l'éducation, de Condorcet jusqu'à Jaurès, c'est notre tradition. C'est celle-là qu'on doit faire vivre, et je vous dis, ça fait un vrai modèle alternatif à Sarkozy.
Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que les socialistes acceptent le désengagement de l'État? Est-ce que vous pensez que c'est dans le domaine du possible?
Je pense pas. Je pense que la question qu'on a aujourd'hui, c'est la définition de l'intérêt général, qui est un problème majeur pour nous tous. Ça passe par l'intervention d'une puissance publique. Alors qu'il y a à réformer cette puissance publique, bien sûr, puisqu'un certain nombre de gens, à juste titre dans certains secteurs, considèrent précisément qu'elle ne fait pas son office de redistribution, d'égalisation des chances, de mobilité sociale. Donc nous avons à penser la réforme de l'État, mais nous avons absolument besoin d'une puissance publique. La liberté de la seule poursuite des intérêts individuels et de la domination uniquement de ce jeu des intérêts individuels dans l'espace économique, c'est la liberté du renard dans le poulailler, comme disait Jaurès. Donc ça, c'est catastrophique. Ça fait la liberté pour quelques-uns, ça fait la servitude pour le plus grand nombre.
Alors Vincent Peillon, on va revenir aux affaires plus courantes du Parti Socialiste. Vous avez lu, j'imagine, le texte de François Hollande publié dans Le Monde.
Je l'ai lu ce matin.
Vous l'avez lu ce matin. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? C'est un texte que vous pourriez signer?
Je trouve qu'il dit des choses assez intéressantes. Je trouve que, et je comptais l'appeler pour lui dire, il y a quelques points qui sont encore, à mon avis, sous-estimés. C'est la question de la régulation de la mondialisation, qui est pour nous un problème majeur sur lequel il passe un peu vite. Il y a la question de la priorité dont je parlais à l'instant à l'éducation, qui me semble un sujet majeur, y compris dans une économie de la connaissance. Donc il y a quelques points, y compris, puisqu'il en est au diagnostic, des grandes questions à soulever, qui me semblent encore, je le trouve toujours très frileux sur la question de la démocratie. Moi, je crois que de l'entreprise jusqu'à la globalisation, l'instrument du progrès social, c'est toujours le progrès démocratique, et qu'on a à être plus ferme sur cette question. Mais c'est un texte qui est intéressant.
Sur un air de campagne.
Sur un air de campagne.
Le magazine politique de RFI.
La suite de l'actualité de la semaine. Mardi, la France se lève tôt. Carla Bruni-Sarkozy aussi. Dans le petit matin brumeux, la première dame accompagne son mari au pavillon des viandes du marché de Gros de Rungis en banlieue parisienne. Et c'était pas du tout prévu.
Puis je dois dire que ce matin, là, 84, lorsqu'on est parti de la maison, et quand Carla m'a dit « ce matin, je viens avec toi », c'était quand même une journée qui commençait bien.
Une journée qui s'est poursuivie à la radio. Le président a invité une heure entière sur RTL, histoire de remettre le couvert sur les 35 heures.
Il y aura toujours une durée hebdomadaire du travail en France, elle sera de 35 heures. Et ma réponse, elle est définitive. En revanche, ce que je souhaite, c'est qu'on supprime tous les verrous qui empêchaient les Français de travailler. Nous aurons davantage de recettes. Parce que nous aurons davantage de travail.
Déclaration a priori apaisante, sauf que 24 heures plus tard, syndicats et patronats découvrent avec stupeur la teneur du projet de loi sur le temps de travail. Chaque entreprise pourra décider librement de la durée de travail effectuée par ses employés. Ce n'est pas ce qui avait été négocié. Alors, avant de revenir sur cette question de fond, sur les 35 heures, Vincent Peillon, un mot sur Carla Bruni. Vous avez l'impression que c'est la nouvelle carte de l'Élysée pour conquérir l'opinion?
J'ai toujours été très 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 mauvais en politique de communication, comme Sarkozy d'ailleurs en politique de civilisation. Mais donc je suis assez incapable de vous dire, je regarde comme vous tous, je découvre ça, j'ai un peu l'impression qu'on se moque de moi. On disait tout à l'heure, il y avait cette phrase de Delannoy, lui quand je vois, il était venu déjà, Sarkozy, faire des grands discours sur Jaurès dans ma région, quand je le vois recommencer ses levées matinaux et s'accompagner, il se moque un peu de nous. Bon, sur le reste, sur Carla Bruni, j'ai pas de commentaires particuliers à faire.
Les 35 heures, vous avez peut-être être davantage d'Isère. Est-ce que c'est toujours un problème au Parti Socialiste, cette question?
Ah non, je crois non. D'abord, moi je suis sidéré de tout ce qu'on entend sur les 35 heures. Parce que toutes les études, y compris celles faites par des ministères sous la droite, montrent quand même que ça crée des emplois, que les Français sont attachés, que les Français, contrairement à ce que dit la droite, travaillent autant que les autres pays, que la tendance est à la réduction du temps de travail, que c'est un progrès non seulement qui nous a pas coûté économiquement, même s'il y a une modération salariale, mais qui a permis aux gens de mieux vivre, donc un progrès pour le coup de civilisation. Je suis quand même étonné de ce procès permanent contre les 35 heures. Il y a eu des difficultés d'application, on est obligé de le reconnaître. Donc quand on fait une réforme, il faut mieux l'appliquer. Alors là, je pense par exemple à ce qui s'est passé dans les hôpitaux, ce qui s'est passé un temps dans les petites entreprises. Et quel est le grand reproche que font les salariés aux 35 heures souvent? Là où les accords, puisqu'on voulait une grande négociation, disons pas négocier, c'était plus grande négociation, ça se faisait entreprise par entreprise. On cherchait même, quand il n'y avait pas de syndicalistes, ces fameux mandatements. Mais c'est que dans certains cas, il n'y avait pas le rapport de force, c'est que les gens ont eu beaucoup plus de flexibilité. Du coup, ils ont eu modération salariale et flexibilité. Moi, je vois en métallurgie chez moi. Là, les gens se sont dit, mais vous avez été alors trop libéraux, entre guillemets, dans l'application de la loi. Donc, le contraire de ce qu'on entend. Et toutes les études le montrent. Donc, déjà, ça fait partie du problème français. Mettons un peu de rationalité dans cette affaire. Deuxièmement, ce qui se passe depuis 24 heures est absolument scandaleux et grave. Lorsque vous faites toute une campagne sur la négociation. Sur le dialogue social. Lorsque vous réussissez une négociation que nous, on peut estimer comme opposant insatisfaisante, mais il y a la signature des syndicats, y compris CGT, CFDT. Bon. Et on voit même le BDF maintenant qui vole au secours de la négociation. Et que vous démentez ces accords par le projet de loi que vous préparez, là, il y a une rupture démocratique profonde. Et nous sommes là sur l'inquiétude qu'on pouvait avoir, les gens parlent de bonapartisme, sur l'inquiétude qu'on pouvait avoir par rapport à cette pratique du pouvoir. C'est quelque chose qui est extrêmement grave et j'espère, je pense, que le gouvernement devrait reculer sur cette affaire.
Alors pourquoi cette décision, selon vous? Est-ce que c'est pour donner des gages à la droite pure et dure qui refuse ces 35 heures depuis toujours ou pourquoi, selon vous?
La tentation de violence existe, c'est-à-dire de l'affrontement. Sarkozy a une méthode qui consiste en permanence à opposer les uns aux autres. Et le sentiment que j'ai là après, d'ailleurs, l'histoire du service minimum annoncé le jour même d'une grève, dont on peut discuter sur le fond, justement, qu'aurait été négocié par les syndicats dans des démocraties apaisées comme... Non, c'est de la communication brutale pour durcir les choses et dresser les uns contre les autres. J'ai le sentiment que là, c'est la même chose. C'était d'ailleurs, les syndicats sont tombés de leur chaise, puisque c'était le contraire des discours qui étaient tenus depuis plusieurs semaines.
Donc,
j'ai le
sentiment, et patronat.
Mmh. J'ai le sentiment qu'il y a une volonté de radicalisation, y compris pour la raison que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a sûrement des docteurs diafoirus de l'étude des sondages qui se disent au moins il faut reconquérir notre électorat de droite perdu et donc aller dans l'affrontement avec un certain nombre de catégories, les fonctionnaires et puis les 35 heures, etc. Donc très idéologique.
C'est un peu surprenant à quelques mois de la présidence française de l'Union européenne d'engager un bras de fer sur ce sujet.
C'est le sujet dont on parle le moins. Cette présidence française, moi je suis député européen, c'est vraiment un crève-cœur, si vous voulez, surtout quand on sait les difficultés de la France en Europe. Mais on a prévu, et vous verrez la grosse machine quand elle va se mettre en route, il y a à peu près 300 routes qui sont prévues quand même dans l'espace des 4 mois. Je ne sais pas si ça a été envoyé à la presse, ça a été envoyé aux députés, tout ce qui est prévu dans les régions, etc. Mais le débat de fond sur l'Europe, nous ne l'avons pas. Quelles sont vraiment les priorités de la présidence française? Qu'est-ce que nous mettons sur la table? En plus, ça bouge tout le temps. Alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le redis, heureusement qu'on a un secrétaire d'État qui franchement est pas mauvais et apprécié des Européens. Pour le reste d'ailleurs, quand Sarkozy était venu la première fois, on va le revoir au Parlement européen, il a failli se faire siffler. C'était un discours absolument incroyable de volontarisme, d'injure des autres, et vous allez voir ce que la France va faire. Les contenus c'est quoi? Donner des leçons sur l'immigration aux autres, là encore la tentation sécuritaire complètement décalée des modes de réflexion, et les vrais sujets, c'est-à-dire l'harmonisation sociale, la question économique, tout ça, on n'en parle pas. Donc une nouvelle fois, le débat européen qui est pourtant central, même les OGM, ça venait d'une directive européenne, on l'a vu il y a 15 jours, eh bien, il est esquivé dans ce pays et ce n'est pas le président qui le porte. Hein.
La suite et la fin de l'actualité de la semaine, Vincent Peillon, avec le feuilleton de la réforme des institutions. C'est décidé, les députés socialistes voteront en première lecture contre le texte du gouvernement. Explication sous forme d'une petite leçon de stratégie politique avec André Valigny, le porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale.
L'unanimité du groupe s'est dégagée, sauf deux abstentions, pour dire qu'il fallait voter contre ce texte. Ne serait-ce que pour obtenir les avancées que nous souhaitons d'ici le mois de juillet. Il faut que le gouvernement et les majorités UMP se pénètrent de l'idée que sans nous, ça ne passe pas, et s'ils veulent nos voix, il faut qu'ils acceptent nos propositions.
Les socialistes, pour une fois unanimes, alors que la droite, elle, se divise. Nouveau couac cette semaine entre la majorité UMP et le gouvernement à propos de la parité homme-femme au travail, ce qui n'étonne guère l'UMP critique François Goulard.
Ben, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un climat qui est moins idyllique, moins irénique qu'il ne l'était il y a quelques mois. Ça, c'est une évidence. Mais les textes y sont pour quelque chose. La réforme constitutionnelle serait un peu mieux conçue. À mon avis, elle passerait mieux.
Vincent Peillon, vous n'êtes pas député. Vous êtes député européen. Vous n'êtes pas au Parlement français. Vous n'aurez pas à voter sur cette réforme. Enfin, vous avez votre idée. Pourquoi les socialistes aujourd'hui nous disent qu'ils sont en mesure de bloquer la réforme constitutionnelle, alors qu'il y a 6 mois, au moment de la ratification du traité simplifié de Lisbonne, ils disaient non, on n'a pas les moyens.
Parce que je pense qu'ils ne sont pas les seuls. Vous savez, c'est l'histoire des 3/5. Il y a visiblement, comme ça vient d'être rappelé, beaucoup de gens maintenant à droite qui se posent aussi des questions sur cette.
Mais il y a beaucoup de gens à droite qui comptent sur les socialistes pour pas avoir à se prononcer.
Moi, je pense, je vais vous dire, j'ai été étonné du sentiment de tractation qu'on a là-dedans. Et je pense que quand on voit, parce qu'en plus, bon, il faut essayer de dire la même chose sur plusieurs années de suite, moi, je pense qu'un des grands problèmes français, c'est précisément la réforme démocratique, parce que c'est l'instrument des réformes. Donc, j'étais pour une 6e République et des changements très profonds. Là, on voit que c'est une toute petite réforme et qui va en plus en contradiction avec la pratique du pouvoir. Donc, je vois pas pourquoi, depuis le début, on est dans ces atermoiements. Il y a vraiment des contre-propositions à faire et prendre mesure de l'ampleur de la crise démocratique française.
Merci Vincent Peillon. On arrive au terme de la première partie de l'ère de campagne. On vous retrouve dans 10 minutes, Vincent Peillon, aux côtés de Jacques Folleroux pour évoquer l'ancien Premier ministre socialiste Pierre Bérégovoy. Ce sera juste après le journal.
Je bobsleigh, c'est comme l'amour. On hésite avant. C'est très bon sur le moment et après on regrette que ce soit fini.
Il y a un moment des mots qui font mal.
Apparemment, vous connaissez pas la loi, hein. Mais un socialiste comme ça, il a toute sa place au gouvernement français.